Ouvrez votre porte, éteignez les lumières, allumez une bougie, sortez votre plaid et installez-vous confortablement. Bienvenue dans À Notre Regard, l'émission de Radio G qui vous plonge au cœur du paranormal et de l'ésotérisme. Bref, tout ce qui se trouve entre l'un peu insolite, le franchement étrange et le vraiment bizarre. Il existe des lieux et des récits qui semblent défier le temps, des histoires qui naissent dans l'ombre et qui, génération après génération, continuent d'alimenter notre fascination pour l'inexpliqué. Dans les brumes de l'Angleterre, jusqu'au couloir silencieux d'un château de l'Anjou, certaines légendes persistent, nourries par des témoignages troublants, des archives historiques, et parfois par la simple peur de ce qui pourrait se cacher derrière le voile de la nuit. Dans les années 1970, à Highgate Cemetery, au nord de Londres, une rumeur étrange commence à se répandre. Des silhouettes sombres seraient aperçues entre les tombes, des animaux retrouvés mystérieusement morts, et plusieurs témoins affirment avoir croisé le regard incandescent d'une créature que certains n'hésitent pas à appeler un vampire. L'affaire du vampire de Highgate va rapidement enflammer la presse et déclencher de véritables chasses aux vampires. Mais les légendes ne se limitent pas au cimetière londonien. En France, au cœur de l'Anjou, le majestueux château de Brissac, le plus haut château de France, abriterait lui aussi un secret vieux de plusieurs siècles, celui d'une femme assassinée dans un drame passionnel au XVe siècle. Alors depuis, son esprit entrait les lieux, apparaissant sous la forme d'une mystérieuse dame verte, dont les murmures nocturnes troubleraient encore les nuits du château. Et puis, il y a certaines créatures dont on ne parle qu'à voix basse. Des entités venues du monde des démons, décrites depuis le Moyen-Âge dans les traités religieux et les récits de sorcellerie, les incubes et les succubes. Entre esprits séducteurs ou parasites nocturnes, ils visiteraient les dormeurs dans leur sommeil, brouillant la frontière entre le rêve, les désirs et la terreur. Alors ce soir, dans un autre regard, nous allons explorer ces histoires troublantes. Entre archives, témoignages et traditions, nous tenterons de comprendre comment naissent ces récits et pourquoi ils continuent, aujourd'hui encore, à nourrir notre imaginaire. Car parfois, derrière les légendes, se cachent des questions bien réelles. Et ce soir, nous allons nous en poser, ensemble, dans un autre regard. Lorsqu'on évoque les histoires de vampires, on pense souvent aux montagnes brumeuses de la Transylvanie, aux légendes d'Europe de l'Est ou aux récits popularisés par la littérature gothique du XIXe siècle. Pourtant, l'une des affaires de vampires les plus célèbres du XXe siècle ne s'est pas déroulée en Roumanie, mais au cœur de l'Angleterre, dans l'un des cimetières les plus mystérieux de la capitale britannique, le Highgate Cemetery. Alors, situé au nord de Londres, ce cimetière victorien qui a été ouvert en 1839 fait partie des célèbres Magnificent Seven, les sept grands cimetières construits autour de la capitale à l'époque victorienne pour faire face à la saturation des anciens lieux de sépulture urbains. Avec ses allées sinueuses, ses caveaux monumentaux, ses statues funéraires envahies par le lierre et ses cryptes gothiques, Highgate semble tout droit sorti d'un roman sombre du 19e. Alors, le lieu possède une atmosphère qui est particulière. De nombreux visiteurs ont décrit cette impression étrange d'être observé, comme si le silence des pierres tombales dissimulait encore des secrets anciens. Alors, il faut dire que Highgate abrite les tombes en fait de nombreuses personnalités, dont celle du philosophe Karl Marx, mais aussi des poètes, des artistes ou des aristocrates britanniques. Mais à la fin des années 60, ce lieu qui était déjà chargé d'histoire va devenir le théâtre d'un phénomène étrange qui marquera durablement la culture populaire britannique. Tout commence par une série de témoignages troublants. Donc à la fin de l'année 69, plusieurs habitants du quartier de Highgate affirment avoir aperçu une silhouette sombre errant dans les allées du cimetière. Alors certains parlent d'une forme très grande, presque surnaturelle, qui se déplacerait silencieusement entre les tombes. D'autres évoquent une présence inquiétante qui semblerait disparaître dans l'obscurité dès qu'on tente de l'approcher. Alors rapidement, les récits se multiplient. Plusieurs témoins affirment avoir vu une silhouette aux yeux rouges brillants dans la nuit. D'autres alors disent avoir ressenti une peur irrationnelle en traversant le cimetière, comme si quelque chose les observait depuis les profondeurs des cryptes. Alors un témoin raconte même avoir vu une figure sombre se tenir immobile près d'un caveau avant de disparaître mystérieusement derrière un monument funéraire. Alors dans les mêmes temps, il y a des rumeurs qui commencent à circuler qui concernent des animaux retrouvés morts dans les environs du cimetière. Alors certains habitants affirment que des renards ou des chiens auraient été découverts avec des blessures étranges qui seraient interprétées par certains comme des morsures. Alors bien sûr, ces histoires peuvent sembler aujourd'hui relever du folklore urbain, de la légende urbaine, mais à l'époque, l'atmosphère dans le quartier devient véritablement tendue. Ces témoignages sont d'abord confidentiels, on s'échange ça sous le manteau, et puis l'affaire va prendre une grande dimension médiatique. Donc là, on est le 6 février 1970. Un habitant du quartier, David Farrant, décide d'écrire au journal local le Hampstead and Highgate Express. Et dans sa lettre, il explique avoir observé une présence surnaturelle dans le cimetière. Donc je cite, « À trois reprises, j'ai vu ce qui ressemblait à une figure fantomatique à l'intérieur des grilles du cimetière. » Or, il précise que la première apparition aurait eu lieu la nuit de Noël 1969, alors qu'il passait près des grilles du cimetière pour rentrer chez lui. Alors selon lui, la silhouette aurait ressemblé à une genre de grande forme grise qui a disparu dans l'obscurité. Alors dans sa lettre, Farrant ne parle pas du tout de vampire, hein. Il se contente de demander si d'autres personnes auraient observé quelque chose de similaire. Mais là, les réponses du public vont dépasser toutes les attentes. Dans les semaines qui suivent, le journal reçoit plusieurs lettres de lecteurs affirmant eux aussi avoir observé des phénomènes étranges dans ce même cimetière. La silhouette très grande, un coup portait un chapeau, une femme vêtue de blanc, un visage apparaissant derrière les grilles et une forme lumineuse qui glissait entre les tombes. Donc ces témoignages vont transformer une simple anecdote locale en véritable mystère. Et peu de temps après, il y a un autre homme qui répond publiquement à cette lettre. Il s'agit d'un occultiste britannique et un chercheur en paranormal nommé Sean Manchester. Donc après avoir pris connaissance de la lettre de Farrant et des témoignages publiés dans le journal, notre occultiste, John Manchester, avance une hypothèse spectaculaire. Selon lui, la créature aperçue dans ce cimetière de Highgate pourrait être tout simplement un vampire. Donc évidemment, cette théorie attire immédiatement l'attention des médias. Le fameux Hampstead and Highgate Express publie plusieurs articles sur l'affaire en février et en mars 1970, et dans l'un d'eux, le journal titre même « Nous ne voulons pas vous effrayer, mais le fantôme du cimetière de Highgate pourrait être un vampire ». Alors Manchester, lui, il affirme que la créature serait un vampire ancien, peut-être venu de l'Europe de l'Est. Il affirme, Manchester, qu'un vampire aurait été introduit en Angleterre au XVIIIe siècle par des nobles fascinés par l'occultisme. Et selon lui, le corps d'un vampire d'Europe qui serait venu de l'Est aurait été transporté à Londres et enterré dans le cimetière de Highgate. Et avec le temps, l'entité affamée se serait réveillée et commencerait désormais à hanter les lieux. Alors ces affirmations spectaculaires vont déclencher une véritable panique médiatique. Cette déclaration attire immédiatement l'attention. La presse britannique s'empare de l'affaire et le cimetière de Highgate devient rapidement le centre d'une véritable hystérie médiatique. Donc la situation devient encore plus étrange effectivement avec ces histoires d'animaux puisque les gens commençaient à faire le lien avec la mort des animaux et la présence d'un supposé vampire. Alors évidemment, il n'y a aucune preuve scientifique qui vient confirmer ces hypothèses. Mais comme le contexte était déjà chargé d'imaginaire, je vous laisse imaginer le reste. Ça va mener jusqu'au point culminant. Donc, dans la nuit du 13 mars, le vendredi 13 mars 1970, il y a une véritable chasse aux vampires qui est organisée. Donc, après qu'un appel à la chasse aux vampires a été évoqué dans les médias, des centaines de curieux envahissent le cimetière de Highgate. Des adolescents, des amateurs d'occultisme, mais aussi des simples habitants qui viennent explorer les tombes à la recherche du mystérieux vampire. La police doit même intervenir pour disperser la foule et empêcher les dégradations. Donc les grilles du cimetière sont forcées, des tombes sont endommagées et certains caveaux sont ouverts. C'est là que l'affaire va prendre finalement une tournure encore plus étrange, puisqu'il y a deux hommes désormais qui vont s'affronter publiquement autour de l'histoire de Highgate, donc David Farrant, qui est à l'origine du premier témoignage qui a été publié dans la presse, et notre fameux occultiste Sean Manchester qui lui affirme connaître les méthodes pour détruire un vampire. Donc les deux hommes deviennent rapidement rivaux, chacun prétend comprendre la nature du phénomène et mener ses propres investigations dans le cimetière. Donc Farlunch, lui, il affirme avoir observé plusieurs manifestations étranges à Highgate, mais bien sûr, il reste beaucoup plus prudent sur l'interprétation vampirique. Manchester, lui, il est beaucoup plus affirmatif, il déclare que ce vampire se cacherait dans un caveau précis du cimetière et qu'il faudrait procéder en fait à un rituel d'exorcisme pour le détruire. Et Manchester prétend même connaître les rituels nécessaires pour effectuer la besogne. Alors selon Manchester, la créature aurait finalement été traquée, même jusqu'à une maison abandonnée dans le nord de Londres. Donc dans son livre The Highgate Vampire, qui est publié en 1991, il affirme avoir réalisé un exorcisme et détruit la créature en lui enfonçant un pieu dans le cœur avant de brûler son corps. Alors cependant, bien sûr, ces affirmations restent totalement impossibles à vérifier, car aucun corps n'a jamais été présenté et aucune preuve matérielle n'a été apportée. Pour David Farrant, lui, dans son livre « Beyond the Highgate Vampire », sorti lui aussi en 91, l'avis de David Farrant dans son livre est très intéressant, car il diffère fortement de la version sensationnaliste qui est proposée par son rival. Dans son livre, Farrant explique qu'au départ, il n'a jamais parlé de vampire. Il parlait plutôt d'une apparition étrange. Donc je cite « Je n'ai jamais affirmé avoir vu un vampire. Ce que j'ai vu était quelque chose que je ne pouvais pas identifier. Une forme grise, presque fantomatique, se déplaçant dans le cimetière. » Et il ajoute, il y avait sans doute quelque chose d'étrange dans l'atmosphère de cet endroit, une sensation d'oppression que j'avais rarement ressentie ailleurs. Selon lui, c'est surtout l'intervention médiatique et les déclarations de Manchester qui ont orienté l'affaire sur la thèse vampirique. Donc une grande partie du livre est consacrée avec cette rivalité. Et puis David Farrant, lui, il accuse carrément Sean Manchester, donc l'occultiste, d'avoir exagéré les faits, d'avoir inventé certaines histoires et d'avoir transformé une enquête paranormale en véritable chasse aux vampires spectaculaire. Il affirme notamment que l'histoire du vampire venu d'Europe de l'Est et détruit par un pieu relève davantage de la mise en scène d'un film que d'un événement réel. Donc dans ce fameux livre de Farrant, Beyond the Highgate Vampire, Farrant, lui, conclut plusieurs choses ont contribué en fait à faire cette légende. Il pense que il y a beaucoup de témoignages qui sont totalement réels mais qui ont été mal interprétés. Il pense aussi que c'est dû à l'atmosphère très particulière du cimetière et on va dire à l'esthétique gothique. Et une autre cause, effectivement, c'est l'emballement médiatique. Et puis une dernière chose qui a pu du coup mener à ça, c'est la rivalité entre enquêteurs du paranormal. Il considère que l'affaire est plutôt un mélange de phénomènes étranges et de constructions médiatiques. Mais il maintient quand même que certains événements survenus restent difficiles à expliquer. Un détail intéressant ou pas, c'est que Farrant, lui, il a été arrêté en 1974 près du cimetière car il était soupçonné de pratiques occultes et de vandalisme de tombes, donc la 74. Hein. L'affaire à la une de la presse britannique a contribué à renforcer encore la dimension mystérieuse de l'affaire, donc vous voyez, il n'est pas tout à fait net lui non plus. L'affaire du vampire de Highgate repose donc essentiellement sur des témoignages, des récits qui sont contradictoires et une couverture médiatique immense. Alors ce qui rend quand même cette histoire particulièrement fascinante, c'est le contexte dans lequel elle apparaît. On est dans la fin des années 60, le début des années 70. On est marqué par un regain d'intérêt pour l'occulte, le paranormal, les mystères. La culture populaire s'empare de ces thèmes à travers la littérature, le cinéma et la télévision. C'est l'époque où les films de la société britannique Hammer connaissent un véritable succès, notamment ceux qui mettent en scène en fait le célèbre vampire incarné par Christopher Lee, donc Dracula. Donc l'imaginaire du vampire est donc très présent dans la société britannique de l'époque. Certains sociologues ont suggéré que cette affaire du vampire de Highgate pourrait être un exemple parfait de ce que l'on appelle une légende urbaine moderne. Un récit qui naît de témoignages isolés, amplifiés par les médias, puis transformés en mythe collectif. Alors aujourd'hui encore, plus d'un demi-siècle après les événements, ce fameux cimetière de Highgate continue d'attirer les amateurs de mystère. Certains visiteurs y affirment toujours ressentir cette atmosphère étrange dans certaines parties du cimetière. D'autres racontent avoir aperçu des silhouettes entre les tombes au crépuscule. Mais bien sûr, aucune preuve de l'existence d'un vampire n'a jamais été découverte. Alors, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez voir un documentaire qui s'appelle The Curse of the Highgate Vampire. C'est un documentaire paranormal britannique qui a été réalisé par Andy Robbins où il explore en fait les témoignages historiques et les enquêtes modernes autour du mystérieux vampire de ce cimetière. Donc le film reprend ces affaires, mais il tente aussi de réexaminer avec des investigateurs contemporain. Donc il y a une équipe d'enquêteurs paranormaux qui passent des nuits enfermées dans le cimetière pour tenter aussi de capter des phénomènes. Et le documentaire utilise aussi des enregistrements inédits qui avaient été faits par David Farrance, donc dans les années 70. Et il y a des historiens, des journalistes et des enquêteurs qui analysent les témoignages originaux. Ce film va revenir aussi sur des éléments qui sont les plus troublants du dossier, donc cette fameuse silhouette sombre aux yeux rouges, le récit des corps se relevant des tombes, et aussi des témoignages apparemment de mystérieuses morsures qui auraient été faites sur le cou d'une femme. Alors ça dure environ presque une heure, et c'est disponible sur Discovery Plus ou Prime Video selon les pays. Voilà, il n'y a plus qu'à vous y plonger si vous voulez avoir votre dose de vampire de Highgate supplémentaire.
Vous écoutez Un autre regard sur Radio G 101.5 FM, l'émission qui explore tout ce qui se trouve entre l'un peu insolite, le franchement étrange et le vraiment bizarre.
Alors pour conclure, ce qu'on peut dire aujourd'hui encore, c'est que le cimetière de Highgate attire les visiteurs du monde entier. Certains viennent pour admirer l'architecture funéraire victorienne, d'autres pour se recueillir sur le tombe des personnalités célèbres. Et puis il y a ceux qui viennent aussi dans l'espoir de ressentir quelque chose d'étrange, une présence, un frisson, un regard dans l'obscurité. Et parfois, il suffit d'une nuit brumeuse, d'un cimetière silencieux et d'une silhouette aperçue entre les tombes pour que la frontière entre la réalité et la légende devienne soudain beaucoup moins claire. Alors plus de 50 ans ont passé depuis ces événements et aucun vampire n'a été capturé, aucune preuve tangible n'a été apportée. Et pourtant, cette affaire continue d'intriguer historiens du paranormal, folkloristes et amateurs de mystères. Pour certains chercheurs, c'est l'exemple parfait d'une légende urbaine moderne. Mais pour d'autres, certaines questions demeurent. Les témoignages initiaux, les sensations étranges rapportées, l'atmosphère particulière, tout ça laisse planer une part d'ombre difficile à expliquer complètement. Et c'est peut-être là, finalement, tout le mystère. Car les légendes naissent souvent à la frontière fragile entre la réalité et l'imaginaire. Aujourd'hui encore, lorsque la nuit tombe sur les allées silencieuses du cimetière de Highgate, certains visiteurs affirment ressentir un frisson particulier. Un sentiment diffus, comme si quelque chose observait encore les vivants depuis l'ombre des tombes. Alors, simple rumeur, emballement médiatique ou rencontre furtive avec une présence inconnue, la question reste ouverte. Alors, nous quittons maintenant les brumes nocturnes de Londres et les ombres inquiétantes de Highgate pour traverser la Manche, plonger au cœur d'un autre lieu chargé de mystère, ici en France, le château de Brissac, perché dans les collines du Maine-et-Loire. Il est théâtre d'apparitions qui ont traversé les siècles. Alors préparez-vous à franchir les portes de Brissac, où histoire et paranormal se mêlent, où le passé finalement refuse de rester silencieux. Mais avant cela, je vous propose une petite pause musicale avec Bauhaus.
I'm
après les ombres de Highgate, vous êtes tout, et l'ombre et l'histoire fascinante du vampire londonien, notre regard sur un autre regard sur Radio G va se tourner vers la France, vers un lieu où l'histoire et le paranormal se croisent depuis plusieurs siècles. C'est pas loin de nous, c'est le château de Brissac. Alors, perché sur les collines du Maine-et-Loire, ce château surnommé la Tour de Brissac est la plus haute demeure de France, avec ses 7 étages dominants. Ses murs ont vu défiler des siècles de pouvoir, de luxe et de drame, des guerres de religion à la Révolution française, en passant par les intrigues de la noblesse locale. Mais au-delà de son architecture imposante et de son histoire officielle, Brissac possède un autre visage, celui d'un lieu où les vivants côtoient les esprits. Alors depuis le XVIIIe siècle, le château est associé à des phénomènes surnaturels récurrents. Parmi ces apparitions, une figure s'impose particulièrement, la Dame Verte. Ce fantôme féminin, vêtu d'une robe d'un vert éclatant, est décrit comme flottant dans les couloirs et les escaliers du château, souvent aperçu la nuit. Son visage, parfois aperçu par les visiteurs, mêle à la fois beauté et tragédie, et son regard semble observer chaque intrus, comme pour leur rappeler que certains secrets ne s'éteignent jamais. Alors les récits de témoins sont nombreux et variés, certains employés ou des guides parlent d'une présence glaciale dans certaines salles, d'un parfum de violette inexplicable, flottant dans l'air, ou encore de voix chuchotées que personne d'autre ne semble entendre. Alors ces manifestations étaient documentées dans plusieurs ouvrages, mais qui est réellement cette Dame Verte? Alors certaines légendes l'identifient à Charlotte de Brézé, la fille illégitime du roi Charles VII, assassinée au château au XVIIe, tandis que d'autres attribuent son apparition à des drames plus récents au sein de la famille de Brissac. Alors chaque témoignage, chaque récit semble nourrir une présence qui en tout cas refuse de disparaître. Alors faisons un petit point déjà sur le château de Brissac, sur ce géant de l'histoire. Donc dans la vallée de la Loire, à une vingtaine de kilomètres d'Angers, on a ce fameux édifice impressionnant et historique, le château de Brissac. Alors ce château fort, il a été construit à la fin du Moyen-Âge et appartient depuis 1502 à la famille des Cossé-Brissac. Plus haut château du pays avec ses 7 étages, comme je disais, il a été reconstruit au XVIe siècle dans un style renaissance sur des fortifications médiévales plus anciennes. Et il demeure aujourd'hui encore la résidence de la famille Cossé-Brissac. Alors si Brissac, c'est un joyau architectural, c'est aussi un lieu où l'histoire, les drames et les légendes se mêlent jusqu'à devenir indissociables. Alors, on parlait tout à l'heure de ce meurtre oublié qui a traversé les siècles. Donc, la légende est ancrée dans un événement qui est clairement attesté au XVe siècle. Donc, Charlotte de Valois, la fille illégitime de Charles VII et de sa favorite Agnès Sorel, fut mariée à un noble puissant, Jacques de Brézé, qui est grand sénéchal de Normandie. Alors, les archives, notamment les chroniques de cour et les documents généalogiques, confirment que Charlotte fut tuée par son mari après avoir été surprise en compagnie de son amant au château. Donc le mariage, vous avez compris, fut loin d'être heureux. Charlotte aurait entretenu une relation avec un écuyer de la maison, ce qui fut découvert un soir par son mari. Donc dans une explosion de jalousie meurtrière, Jacques de Brézé tue sa femme et son amant dans l'une des tours du château. Alors c'est là où les récits varient, certaines sources affirment qu'il les poignarde, d'autres qu'il les frappe à plusieurs reprises. Quoi qu'il en soit, la mort fut violente et brutale. C'est un fait qui est attesté par des archives de l'époque. Mais contrairement à de nombreux crimes de la noblesse, cet assassinat ne fut jamais apaisé par une justice claire, en fait, une justice publique claire, et la mémoire de l'événement reste gravée dans la tradition orale locale plutôt que dans les archives judiciaires accessibles. Or, c'est à partir de ce drame historique que naît, génération après génération, la légende de la Dame Verte. Charlotte n'aurait jamais quitté le château depuis sa mort violente. Qu'elle apparaît parfois dans une robe verte émeraude, couleur devenue son nom de légende, et qu'elle hante notamment la tour de la chapelle et certains couloirs supérieurs du château. Selon les descriptions les plus répandues, son visage est terrifiant, avec des cavités où on devrait se trouver les yeux et le nez, hein, comme une genre de forme spectrale défigurée qui serait le reflet de sa fin tragique. Alors, si on regarde un peu en avant les témoignages plus contemporain, au fil des siècles, la légende s'est enrichie d'expériences rapportées par des visiteurs, des guides, des employés et même certains propriétaires. Alors, certains visiteurs affirment avoir vu au détour d'un couloir ou à l'étage supérieur une fameuse silhouette féminine vêtue de vert qui se fond dans l'ombre. D'autres témoignages parlent d'une figure translucide dans la tour de la chapelle, d'un visage marqué par la violence avec des cavités à la place des yeux. Au niveau sonore, on décrit des gémissements, des pleurs et des lamentations. Donc tout ça serait parfois entendu la nuit dans des salles vides. Et plusieurs témoins évoquent aussi des effets physiques, des chutes de température soudaines, comme si une présence glaciale traversait la pièce. D'autres parlent de pas inaudibles dans les couloirs vides ou de portes qui s'ouvrent sans cause apparente. Alors toutes ces expériences ne constituent évidemment pas de preuves scientifiques, mais en fait elles se répètent dans les récits depuis des siècles, donc tant en ligne que dans les publications autour du château. Et elles alimentent la réputation de Brissac comme l'un des lieux les plus hantés de France. Alors certains visiteurs ou membres du personnel ont raconté des histoires quand même particulièrement troublantes. Il y a un guide qui a décrit avoir ressenti une sensation de présence derrière elle, puis entendu des pas lents dans un couloir qui était entièrement vide. Les visiteurs parlent d'une sensation glaciale ou d'un souffle invisible qui a traversé la pièce. Et d'autres guides évoquent encore dans les chambres ou la chapelle des bruits indistincts à des heures où personne n'est là. Alors pourquoi cette légende persiste? Alors pour comprendre comment une histoire réelle se transforme en mythe durable, il faut croiser plusieurs éléments. Alors déjà, c'est un événement tragique qui est réel. Donc contrairement à certaines histoires de fantômes qui sont purement inventées, la légende de Brissac, elle s'appuie sur un événement réel, l'assassinat de Charlotte de Valois au 15e. Donc cet événement donne une profondeur historique à la légende qui a été transmise de génération en génération par la tradition orale et a fusionné quelque part avec le folklore populaire des lieux hantés. Alors comme le montrent les traditions populaires en Europe, les récits de fantômes féminins autour des châteaux ou des lieux où la mort violente s'est produite sont fréquents. Donc la figure de la dame en couleur, ici l'envers, est un motif narratif récurrent qui s'adapte aux contextes locaux. Il faut dire également que le lieu est quand même propice à l'imaginaire, donc les vastes couloirs, les salles anciennes, les tours, les escaliers d'un château aussi ancien que Brissac crée une ambiance où l'imagination peut facilement être stimulée par des bruits, des ombres ou des sensations physiques. Alors le château aujourd'hui c'est un site culturel qui est ouvert au public et qui propose des visites, y compris la nuit, et des récits autour de cette dame verte. Alors ça, on peut dire que ça continue à ancrer la légende dans l'imaginaire collectif, au-delà d'un simple fait divers historique. Alors pour ceux qui croient au paranormal, pour beaucoup l'explication historique n'épuise pas la fascination suscitée par la Dame Verte. Les récits contemporains évoquent une sorte de présence qui est quasi consciente, qui est ressentie plutôt qu'observée directement et qui transmettrait douleur et tristesse. Alors les partisans de l'hypothèse paranormale avancent souvent que l'émotion d'un événement tragique laisse une trace dans un lieu, ce qu'on appelle le concept de mémoire des lieux, que certaines manifestations des sons, des températures, des sensations n'ont pas d'explication immédiate scientifiquement reconnue. Et que l'aspect émotionnel de la légende, il y a de l'injustice, il y a un amour bafoué, il y a une mort violente, ça rend la présence, on va dire, logique dans le domaine des fantômes. Et pour du coup, si on regarde du côté des sceptiques, et certains historiens soulignent que les récits de fantômes ne sont jamais établis de toute façon par des preuves vérifiables. Ils répondent aussi qu'il y a une véritable tradition narrative, c'est-à-dire que les histoires de fantômes s'enrichissent avec le temps. Chaque témoin est influencé par les récits précédents et la réputation du lieu. Les témoignages sont souvent influencés par la réputation et les phénomènes observés peuvent avoir des explications qui sont naturelles, comme une acoustique particulière, des variations de température, des illusions perceptives. Et puis il y a l'effet d'ambiance, c'est-à-dire que pour les vieux châteaux, avec leurs vastes couloirs, les variations de température et leur acoustique particulière favorisent l'interprétation des sons comme étant paranormaux. Alors il rappelle aussi que la légende de la Dame Verte n'apparaît dans aucun document qui sont contemporains du XVe siècle, mais que ça se construit progressivement à partir de traditions orales et d'interprétations postérieures. Qu'est-ce qu'il en est du château de Brissac aujourd'hui ? Aujourd'hui, le château vit toujours sous l'aura de cette légende. Il est toujours habité par la famille Cossé-Brissac, qui accueille des visiteurs pour des tours guidés. Alors certains osent des nocturnes ou des séjours dans les chambres d'hôtes historiques, espérant ou redoutant une rencontre avec l'invisible. Mais ce mélange unique d'histoires rigoureuses, de traditions orales et d'expériences humaines subjectives fait de Brissac l'un des récits fantastiques les plus durables de France. Une histoire, finalement, où le réel et le mythe se mêlent pour alimenter notre fascination de l'inexplicable.
Vous écoutez Un autre regard sur Radio G 101.5 FM. L'émission qui explore tout ce qui se trouve entre l'un peu insolite, le franchement étrange et le vraiment bizarre.
Alors, Après avoir traversé les couloirs glacés du château de Brissac et croisé la silhouette vert émeraude de la Dame Verte, notre regard plonge désormais dans un domaine encore plus intime, celui de l'esprit et du désir, de l'invisible qui s'invite dans nos rêves et dans nos nuits. On va parler d'incubes et de succubes, ces entités légendaires qui, depuis des siècles, hantent les récits, les croyances populaires et les textes ésotériques. Présents dans le folklore européen, le Moyen-Âge et même dans certaines traditions contemporaines, ces êtres ne se contentent pas d'effrayer, ils questionnent notre rapport au rêve, à la séduction et à la frontière entre le conscient et l'inconscient. Donc préparez-vous à pénétrer dans un univers où la nuit devient saine, où le visible et l'invisible se confondent et où les légendes les plus anciennes nous parlent encore aujourd'hui. Mais avant ça, je vous propose une petite pause musicale avec la chanteuse des Cranberries, Dolores O'Riordan.
Seeking comfort.
après les couloirs sans fin du château de Brissac et les classes spectrales de la Dame Verte, notre regard dans l'émission de Radio G, Un autre regard, se retourne maintenant vers un territoire plus intime, plus troublant encore, celui de la nuit, des rêves et de l'invisible. Alors depuis le Moyen-Âge, certaines légendes racontent que des êtres peuvent s'introduire dans le sommeil des humains, glisser dans leurs rêves et jouer avec leurs désirs et leurs peurs. Alors on les nomme incube pour la présence masculine, succube pour les féminines, ce sont des figures de la mythologie du folklore, ces entités hantent les textes médiévaux, les grimoires ésotériques et parfois même les témoignages contemporains de personnes affirmant avoir ressenti leur contact. Mais derrière le mythe et le surnaturel, il existe des explications psychologiques, culturelles et spirituelles qui peuvent éclairer en tout cas ces récits. Alors préparez-vous maintenant à explorer un monde où l'invisible devient palpable, où la frontière entre le rêve et la réalité se brouille et où l'histoire, la croyance et l'expérience humaine se mêlent pour créer un mystère fascinant. Et oui, un mystère de plus. Alors le mot incube, ça vient du latin incumbare, qui signifie être couché sur, littéralement une présence qui s'appuie sur le dormeur. L'incube est traditionnellement décrit comme un démon masculin qui se manifeste pendant le sommeil, pouvant s'unir charnellement avec une personne endormie. À l'inverse, le succube, son pendant féminin, est un démon donc femelle qui s'unit aux hommes dans leurs rêves ou leur sommeil. Et dans de nombreuses traditions, l'incube et le succube sont liés. Certains récits anciens affirment que les succubes récoltent la semence des hommes avant de la remettre à un incube. Mais pourquoi ? Quel serait leur but ? Alors leur but premier serait de procréer ou de manipuler la lignée humaine. Alors dans le folklore médiéval, on croyait que les succubes collectaient la semence des hommes et que les incubes la transmettaient à d'autres femmes pour engendrer des enfants démoniaques ou au moins marqués par le diable. Alors leur but, contrôler ou corrompre la lignée humaine et parfois engendrer des créatures hybrides et maléfiques. Donc là, on parle du dictionnaire infernal de Colin de Plancy, c'est une œuvre du 19e siècle. Alors le deuxième but de ces créatures serait de tenter et punir. Les incubes et les succubes sont associés à la tentation sexuelle et au péché. Donc ils apparaissent surtout aux personnes qui sont considérées comme vulnérables au désir. Leur objectif, provoquer le péché, tester la moralité ou punir de fautes supposées. Et là, on est dans le Maleus Maleficarum, donc une œuvre de 1886, où ces démons sont liés à des attitudes impures et servent de moyens d'avertissement moraux. Alors, troisième but de ces créatures, provoquer la peur et le stress, donc dans les récits anciens et contemporains, qui décrivent des incubes et des succubes, et que ces dormeurs se réveillent par la peur, par le malaise ou par l'angoisse. Donc, les buts possibles sont d'intimider, de désorienter ou d'affaiblir psychologiquement la victime. Et là, on est, du coup, c'est une thèse qui est avancée par Mireille Thibault dans son livre Incube de 2022, qui est une genre de compilation des témoignages modernes. Alors, un autre but serait aussi de s'alimenter de l'énergie humaine. Donc, certaines traditions ésotériques expliquent que ces entités absorbent l'énergie vitale, sexuelle ou émotionnelle de leurs victimes. Donc, c'est un phénomène qui est rapporté par des médiums ou des praticiens occultes. Donc, le but serait de survivre ou de se renforcer à partir de l'énergie humaine. Un cinquième but serait une interaction avec les rêves. Donc, ces incubes et succubes cibleraient souvent le sommeil, car ils aiment intervenir dans les rêves pour séduire, menacer ou transmettre un message. Donc, cela montre en fait une volonté de s'immiscer dans l'inconscient des personnes, souvent dans un moment où ils sont le plus vulnérables. D'où sortent-ils ces créatures ? Alors leurs origines sont très anciennes, hein, donc des premiers mythes à l'Europe médiévale, donc les premières traces démoniaques de ces créatures sont en Mésopotamie. Ça remonte à la Mésopotamie antique, on est aux environs de 2000 avant Jésus-Christ, on nous parle déjà de Lilith, / Lilu, donc c'est dans les traditions sumériennes et babyloniennes, et Lilith. Lilith est décrit comme un esprit féminin associé au désert et aux lieux dangereux, souvent responsable de la mort des nouveau-nés ou de la perturbation de dormeurs. Dans les textes akkadiens et sumériens, on parle de Lilou, qui est l'équivalent masculin de Lilith, des esprits nocturnes en fait qui peuvent s'introduire dans les rêves des humains pour provoquer des malaises et des troubles sexuels. Ce sont des précurseurs des succubes et des incubes, donc ça, on doit ça effectivement dans l'œuvre de Kramer, dans la mythologie de la Mésopotamie, c'est sorti en 61. On n'est pas en reste non plus en Égypte antique, donc dans l'Égypte ancienne, certaines divinités et démons nocturnes avaient des fonctions qui étaient à la fois protectrices et malveillantes, donc on avait Bès, qui était le dieu protecteur des foyers, qui était aussi associé à la sexualité et aux rêves, et parfois invoqué pour repousser les mauvais esprits nocturnes. Donc les Égyptiens croyaient que les rêves étaient des messages du monde invisible et que certains démons pouvaient influencer les rêves, ce qui se rapproche au fait au concept des incubes et des succubes. La Grèce antique a aussi donné naissance à l'une des premières descriptions proches de la paralysie, l'éphialtès. Donc l'éphialtès, c'est un démon qui s'assoit sur la poitrine du dormeur, provoquant suffocation, cauchemar et sensation de présence malveillante. Donc c'est Homère et Aristophane font allusion à ces phénomènes dans des textes où des personnages subissent des pressions nocturnes incompréhensibles. Alors les Grecs, eux, ils identifiaient aussi des esprits nocturnes qui étaient liés au désir, aux rêves érotiques et aux cauchemars, comme Morpheus, qui gouvernait le sommeil et les songes. Les Romains reprennent la figure de l'incube à travers du coup le démon Incubus, qui est déjà mentionné dans les textes latins, et associé à la pression sur la poitrine et aux rêves sexuels. D'autres auteurs, comme Augustin d'Hippone, décrivent en fait ces entités comme réelles et nuisibles et les considèrent comme des manifestations démoniaques dans le contexte chrétien naissant. Donc les incubes et les succubes sont alors associés au péché charnel et aux tentations diaboliques, formant le lien avec la morale chrétienne et la future chasse aux sorcières médiévales. Et puis le Moyen-Âge, donc entre le 11e et le 15e siècle, la croyance aux incubes et aux succubes devient très répandue en Europe. Les textes médiévaux les présentent comme des démons capables de copuler avec des humains, provoquant parfois la stérilité ou la naissance d'enfants démoniques. Donc les grimoires et les traités théologiques, comme le Maleus Maleficarum, décrivent la manière dont ces démons opèrent et comment s'en protéger. À l'époque, les expériences de paralysie du sommeil, de cauchemars érotiques et d'apparitions nocturnes étaient interprétées comme des attaques démoniaques légitimes. Alors dans toutes ces civilisations, on observe une constante, en tout cas les entités nocturnes reflètent les peurs, le désir et les tabous de la société. Elles sont des outils de transmission culturelle, un avertissement en fait contre le danger du désir non maîtrisé et les comportements considérés comme déviants. L'incube ou le succube sert aussi à expliquer l'inexplicable. Pourquoi certains hommes ou femmes se réveillent épuisés avec des sensations corporelles fortes ou des rêves troublants.
Vous écoutez Un autre regard sur Radio G 101.5 FM. L'émission qui explore tout ce qui se trouve entre l'un peu insolite, le franchement étrange et le vraiment bizarre.
Il faut savoir aussi qu'il y a une véritable tradition ésotérique des incubes. Donc un regard moderne sur la question peut être trouvé dans l'essai Incube de Mireille Thibault, qui est publié en 2022. Donc dans cet ouvrage, en fait, l'auteur explore non seulement les récits traditionnels, mais aussi des cas contemporains déclarés par des personnes affirmant avoir été affectées par ces entités. Donc selon Mireille Thibault, l'incube est décrit comme un démon ou un esprit malfaisant qui vise surtout les femmes, mais parfois aussi les hommes, en s'attachant à eux de manière persistante. La tradition affirme que l'incube peut revêtir différentes formes pour en quelque sorte atteindre sa victime. Certains cas récents sont étudiés non seulement sous l'angle paranormal, mais aussi sous des approches biologiques, psychologiques ou neurologiques. L'auteur s'interroge sur la nature de ces manifestations. Est-ce qu'il s'agit de véritables attaques de l'invisible, d'une forme rare de psychose ou de quelque chose qui mérite une étude scientifique plus poussée ? L'ouvrage propose aussi des pistes d'explication et d'aide pour les personnes concernées, que ce soit des méditations, des prières ou d'un accompagnement psychologique, car il reconnaît que des phénomènes troublants dans le sommeil peuvent parfois être liés à des conditions humaines complexes plutôt qu'à des entités littérales. Alors si les descriptions médiévales associaient ces entités à des démons malveillants et à la tentation sexuelle, au XXIe siècle, leur présence continue d'alimenter des récits, des témoignages et des études, mais avec des interprétations qui sont plus variées, psychologiques, culturelles, paranormales. Donc de nombreuses personnes racontent encore de nos jours avoir eu des expériences nocturnes étranges qui sont souvent comparables aux récits en fait anciens. Donc certaines victimes se réveillent immobiles avec une sensation de pression sur la poitrine et parfois un sentiment de contact physique. Ces expériences sont interprétées par certains comme la manifestation d'un incube ou d'un succube et par la science plutôt comme la paranésie du sommeil ou des hallucinations hypnagogiques. Quelques individus rapportent même des silhouettes ou des formes humanoïdes aperçues dans la chambre, souvent sombres ou floues, correspondant à l'archétype des démons nocturnes. Alors Mireille Thibault, dans Incube, compile plusieurs témoignages modernes où les personnes présentent la présence de ces entités. Certaines expériences décrivent des rêves très réalistes, très sensoriels, donc donnant l'impression d'une interaction physique avec l'incube ou le succube. Donc Thibault souligne que bien que ces rêves soient troublants, ils ne sont pas toujours liés en fait à un danger réel et peuvent être parfois de simples effets émotionnels ou psychologiques durables. Alors quelles sont les différentes interprétations ? Alors, de nombreux psychologues modernes interprètent les récits en fait d'incubes et de succubes pas comme des présences littérales, mais comme des symboles de désirs inconscients, de fantasmes refoulés ou de conflits psychiques. Alors, cette perspective relie notamment les expériences aux théories freudiennes des rêves et du subconscient. Si on regarde le côté neurologique, il y a des troubles du sommeil, comme la paralysie du sommeil, ou les hallucinations hypnagogiques qui peuvent produire des sensations corporelles très réalistes, qui sont interprétées comme des visites d'entités. Alors, c'est une explication qui est de plus en plus acceptée par la science pour expliquer en fait ce genre de récit. Alors aujourd'hui, les chercheurs offrent plusieurs explications, hein, on a bien compris, qui sont non surnaturelles. C'est-à-dire pendant l'état de paralysie du sommeil, le corps reste totalement immobile pendant le réveil et il est parfois accompagné d'hallucinations qui sont visuelles ou tactiles. Et on parlait tout à l'heure d'hypnagogie et d'hypnopompie. Donc là, c'est des hallucinations au moment de s'endormir ou de se réveiller qui sont souvent liées au stress, au manque de sommeil ou à des troubles neurologiques. Puis il y a tout ce qui est rêves lucides qui peuvent effectivement, qui rendent totalement réalistes des sensations corporelles et émotionnelles. Qu'en est-il de ceux qui approchent cette lunette par le biais paranormal ? Alors pour ceux qui abordent le sujet hors du cadre scientifique, les incubes et les succubes sont considérés comme des entités qui sont conscientes, capables d'entrer dans les rêves pour interagir avec le dormeur. Alors certains praticiens proposent des protections ou des rituels pour se prémunir, hein, donc les bougies, les prières, les visualisations ou même la purification de la chambre. Alors Mireille Thibault note que ces pratiques sont souvent plus psychologiquement rassurantes que réellement magiques, et qu'elles font partie intégrante du folklore autour de ces fameux incubes et succubes. Alors on peut se dire aussi que ces incubes et ces succubes reflètent aussi finalement les angoisses de notre société face à la sexualité, au contrôle du corps et au désir dans des différentes sociétés. À l'époque médiévale, cela pouvait s'incarner par la peur de l'impureté et du péché, tandis qu'aujourd'hui, ces figures apparaissent parfois comme des récits un peu psychospirituels ou paranormaux. Alors après avoir traversé les siècles, des ruines mésopotamiennes aux châteaux médiévaux européens jusqu'aux chambres modernes de nos appartements angevins, les incubes et les succubes restent des figures fascinantes et troublantes, car ils incarnent à la fois la peur et le désir, le visible et l'invisible, le corps et l'esprit. Alors, des témoignages contemporains rapportent encore des expériences de pression nocturne, de rêves intenses ou de présences invisibles, faisant écho aux récits médiévaux compilés. Alors qu'il s'agisse de manifestations littérales ou de phénomènes purement psychologiques, ces entités en fait interrogent notre rapport au sommeil, à l'inconscient et à la vulnérabilité humaine. Et pour nous remettre de ces émotions de tentation, je vous propose un petit morceau musical avec Portiched, Glory Box.
Vous écoutez Un autre regard sur Radio G 101.5 FM, l'émission qui explore tout ce qui se trouve entre l'un peu insolite, le franchement étrange et le vraiment bizarre.
Alors que nous refermons le voile sur Radio G, sur cette émission Un autre regard, il est fascinant de constater à quel point le paranormal, le mythe et la mémoire des lieux continuent de tisser des liens avec notre quotidien et notre imaginaire. Du cimetière de Highgate où le vampire pourrait encore rôder entre les pierres anciennes et les brumes londoniennes, au château de Brissac où la dame verte hante ses chambres, avec ses murmures et ses ombres, jusqu'aux incubes et succubes figures de nos nuits et de nos rêves, nous avons exploré des territoires où l'invisible devient tangible et le passé dialogue avec le présent. Chaque légende, chaque témoignage et chaque site nous rappelle que le mystère est souvent une combinaison de peur, d'histoire, de désir et de mémoire collective. Les lieux hantés, les phénomènes nocturnes et les récits ancestraux ne sont pas seulement des histoires à raconter, ils sont des miroirs de notre humanité, de nos rêves et de nos angoisses. Alors en fin de compte, que l'on croit ou non aux vampires, aux fantômes ou aux démons nocturnes, ces récits continuent de stimuler notre curiosité, d'éveiller notre imagination et de nourrir notre désir de comprendre l'inexplicable. C'est ce regard entre fascination et enquête que nous vous invitons à garder jusqu'à notre prochaine exploration de l'étrange. Alors avant de refermer cette émission, préparez-vous à plonger pour notre prochaine rencontre. Nous rencontrerons le petit peuple avec les fées, ces créatures légendaires qui depuis des siècles peuplent nos forêts, nos légendes et nos rêves. Alors oubliez Clochette et sa personnalité espiègle, vous pourrez bien être surpris et même inquiet. Nous irons à la rencontre de leurs origines, des mythes européens aux traditions du monde entier et découvrirons comment ces êtres continuent d'inspirer et d'intriguer. Nous explorons aussi le monde fascinant de Delphine de Girardin, alors écrivaine, poétesse, figure du 19e siècle, mais surtout une spirite convaincue dont la vie et l'œuvre recèlent mystères et énigmes souvent oubliés. Et enfin, nous vous emmènerons sur Radio G en République tchèque au château de Huska, célèbre pour son mystérieux portail de l'enfer, un lieu où les légendes, les phénomènes inexpliqués et les folklores se rencontrent dans une atmosphère unique. Alors rendez-vous mardi 7 avril 21h sur Radio G Angers pour ouvrir grand vos yeux, vos oreilles et garder un autre regard sur ces histoires fascinantes. Et prenez soin de vous.
N'oubliez pas, le paranormal, l'ésotérisme ne sont pas seulement des domaines de l'imaginaire, mais des invitations à voir le monde sous un angle nouveau, à questionner nos certitudes, nos habitudes et à enrichir notre existence tout en gardant notre esprit critique. Vous l'aurez compris, c'est aussi une invitation à adopter un autre regard. Merci d'avoir été à l'écoute. À très bientôt sur Radio G pour un nouveau voyage extraordinaire au cœur de l'invisible et de l'inconnu. Alors, restez curieux, ouverts d'esprit et prenez soin de vous.
Radio G 101.5 FM.